Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud.
Allô ?
Oui, allô ?
Ah voilà, on dirait que ça marche. Vous m'entendez ?
Ouais, j'entends là, oui.
Aujourd'hui, l'interview du vendredi va se faire dans des conditions un peu particulières parce que mon invité, Adrien Jaulme, se trouve actuellement à Washington. Adrien Jaulme, grand reporter, correspondant à Washington pour Le Figaro, lauréat du prix Albert Londres en 2002 et auteur de l'ouvrage « Raconter la guerre, une histoire des correspondants de guerre » paru aux éditions Équateur. Bonjour Adrien Jaulme.
Bonjour.
Ils ont témoigné des conflits, quelques-uns d'entre eux sont devenus très célèbres, d'autres sont restés anonymes et pourtant leur rôle est essentiel pendant les conflits. Je parle des correspondants de guerre. Alors quand est-ce qu'ils sont apparus, les correspondants de guerre ?
Ils apparaissent, si on considère que le correspondant de guerre est un professionnel qui se trouve sur un champ de bataille pour raconter ce qui s'y passe. C'est-à-dire que c'est pas un soldat qui raconte ses mémoires ou un général qui décrit ses campagnes comme c'était le cas auparavant. On peut dater leur apparition au milieu du 19e siècle qui coïncide avec le développement fulgurant des journaux, qui sont les premiers médias qui se diffusent très rapidement, il y a un nombre de titres invraisemblables. Et donc l'apparition des premiers journalistes...
Dont Le Figaro qui existe déjà.
Dont Le Figaro qui existe depuis 1836. Mais il y a énormément de journaux, c'est la France de Balzac, en France notamment, en Angleterre, aux États-Unis. Les journaux se multiplient, c'est un peu comme l'apparition d'Internet de nos jours. Et donc il y a des journalistes qui se rendent pour la première fois sur les champs de bataille. Ce sont les premiers correspondants de guerre.
Et justement, vous disiez qu'ils apparaissent au milieu du 19e siècle, c'est à peu près à la même époque qu'apparaît la photographie. Est-ce qu'on emmène déjà les premiers appareils photo sur les théâtres de guerre ?
Dès qu'une nouvelle invention, dès qu'un nouvel appareil permet d'enregistrer, de rendre compte de la réalité, on le retrouve très vite sur un champ de bataille. La photographie, à peu près au même moment, c'est-à-dire on est en 1847-1850 pour la guerre entre les États-Unis et le Mexique, en 1855 pour l'expédition de Crimée, qui est une guerre dont on se rappelle un petit peu maintenant, puisque les Français et les Britanniques étaient rentrés en guerre contre la Russie et avaient débarqué en Crimée et à Sébastopol. Il y a eu le siège de Sébastopol qui a laissé beaucoup de noms dans les rues françaises. Les appareils photo arrivent à ce moment-là sur les champs de bataille. Mais le problème technique qui se pose, c'est que les photos ne sont pas reproductibles dans les journaux, en l'état. Les techniques obligent à dessiner, à graver d'après les photos. Donc ces photos sont diffusées, elles sont exposées, mais elles ne sont pas encore reproduites dans les journaux.
Oui, puis en plus il y a des temps d'exposition qui sont extrêmement longs, donc on imagine que c'est très dangereux pour ces premiers photographes de guerre.
Il y a plusieurs techniques qui existent à l'époque, mais effectivement, comme vous soulignez, les temps de pose sont très très longs. Donc en fait, il faut un appareil avec un pied, un trépied, il faut préparer les plaques. Généralement, ce sont des plaques de verre qu'il faut recouvrir avec une solution qui permettra de prendre l'image. Il faut le faire sur place, donc il faut se promener avec un... Il y a un des photographes qui est en Crimée, qui s'appelle Roger Fenton, qui est un Britannique. Il a un chariot entier qui lui sert de laboratoire, dans lequel il prépare, sur le champ de bataille, il prépare ses plaques, il les insère dans son appareil photo, il prend sa photo et ensuite il doit les développer sur place. Donc le tout sous le feu ennemi, c'est très dangereux et c'est un processus très très long et qui en plus ne permet pas de saisir le mouvement. Donc on voit des gens qui posent, on voit des vues du champ de bataille, mais il n'y a pas le mouvement. C'est toute une photo qui reste très statique, un peu comme de la peinture de paysage.
Est-ce qu'il n'y a pas une vision un petit peu artistique encore de ce qu'est la photographie, puisqu'on a des photographes de guerre qui peuvent déplacer des cadavres pour prendre une bonne photo ?
Alors c'est une polémique qui est un peu vaine, comme souvent les polémiques qui considèrent à traiter le passé avec des critères actuels. Oui, ce sont des gens qui viennent du monde de la peinture, qui viennent du monde de l'art, où on représente la réalité, on la met en scène. Donc effectivement, il y a certains photographes qui n'hésitent pas à mettre en scène le champ de bataille, qui sont généralement des champs de bataille après que les combats soient terminés, pour des raisons techniques qu'on a décrites. Et donc il leur arrive de déplacer quelques cadavres, de les mettre en scène. Après, est-ce que ça enlève de la valeur à leurs photos ? J'en sais rien. Ils sont bien à l'endroit où les combats sont déroulé, il y a bien eu des gens qui ont été tués, donc ils décrivent simplement la réalité avec la façon dont ils l'aperçoivent eux à leur époque et dans le contexte donné. Alors,
la Première Guerre mondiale, c'est vraiment une rupture dans l'histoire de la guerre. La guerre change de visage, devient plus violente, plus professionnelle, et chaque pays mobilise ses journalistes, les met à contribution pour servir l'effort de guerre. Et parmi les grands journalistes de ce premier grand conflit mondial, il y a Albert Londres, qui est correspondant de guerre pour la France et la Belgique. Vous pouvez nous raconter qui est Albert Londres ?
Albert Londres, c'est un journaliste qui travaille à l'époque pour Le Matin, qui est un des nombreux journaux parisiens. C'est un jeune journaliste qui a été réformé au début de la Première Guerre mondiale, au moment de la mobilisation, pour des raisons médicales, parce que la visite médicale l'avait recalé. Et donc, il s'était fait connaître au tout début de la guerre en allant à les Allemands qui est, pendant le début de l'offensive allemande en 1914, les Allemands bombardent la cathédrale de Reims qui est à moitié détruite. Et donc, Albert Londe se rend à travers les lignes et écrit un reportage sur le vif, un reportage qui fait sensation à l'époque, qui raconte le martyre de la cathédrale de Reims. Et Albert Londe devient rapidement un des journalistes célèbres à cette époque-là. Et il est correspondant de guerre, effectivement. Mais alors, la Première Guerre mondiale est une rupture par plein d'aspects. D'abord parce que c'est le premier conflit à une telle échelle. On n'a jamais vu ça. C'est un conflit industriel, une sorte de machine à tuer des millions de gens. Et c'est aussi un conflit qui se déroule en particulièrement sur le front occidental, c'est-à-dire entre la France et sur la ligne de front qui se déroule entre la mer du Nord et la frontière suisse. C'est un front qui est très, très contrôlé par les autorités militaires. Donc, en fait, il y a des premières lignes, des deuxièmes lignes, des troisièmes lignes, et personne n'y accède sans avoir toutes les autorisations nécessaires qui sont délivrées par le grand quartier général. Donc, en fait, l'accès des journalistes est extrêmement limité et extrêmement contrôlé. Et donc, quand Albert Londe fait partie avec je crois qu'ils sont une vingtaine dans mon souvenir, une vingtaine de correspondants de guerre accrédités, donc ils sont installés dans un château dans la région de l'Oise, pas très loin du front, et ils le racontent généralement après coup. On les emmène dans des endroits où il se passe strictement rien. Ils sont encadrés par des officiers qui vérifient exactement tout à qui ils parlent, tout ce qu'ils décrivent. Et on les ramène le soir au bercail où leurs articles sont évidemment vérifiés et contrôlés par la censure. Donc c'est quelque chose qui énerve beaucoup Albert Londe, qui se dispute avec les officiers responsables de ce système. Et finalement, il est chassé de la mission militaire française et il terminera la guerre à couvrir les combats avec l'armée d'Orient.
Et est-ce qu'ils ont déjà un signe distinctif comme des brassards verts, par exemple, que j'ai pu voir dans votre livre ?
Oui, donc ils sont en uniforme. La plupart, alors ce sont des uniformes un peu fantaisie, qui peuvent décider comment ils s'habillent, mais c'est très encadré, c'est très contrôlé, et on leur donne comme signe distinctif un brassard vert. Ça sera d'ailleurs le titre qui est utilisé par l'un d'entre eux pour ses mémoires qui racontera, ça s'appellera Sous le brassard vert.
Et vous avez évoqué la cathédrale de Reims, vous pouvez nous décrire un petit peu cet épisode ? Est-ce que Albert Londe le voit de ses propres yeux ?
Il le voit de ses propres yeux, oui, enfin il ne voit pas le bombardement, mais il est un des premiers témoins à raconter ce qu'il a vu, c'est-à-dire qu'on sait que Reims a été bombardé par les Allemands, on ne connaît pas très bien l'état de la cathédrale, et Albert Londe est un des premiers à décrire l'état du monument. Alors il le fait de façon, comme on écrit à l'époque, de façon très lyrique et assez émouvante, mais c'est l'un des premiers témoins, en tout cas, à raconter le choc que ça a été.
Et puis, c'est aussi les tranchées, la Première Guerre mondiale, et ça aussi c'est une nouveauté dans la façon de faire la guerre. Les militaires s'enterrent dans des véritables travées, il y a le no man's land entre les deux tranchées ennemies. Comment on photographie ces tranchées ? On descend avec du matériel, les photographes passent du temps avec les poilus.
L'histoire des correspondants de guerre raconte l'histoire des hommes et des femmes qui exercent ce métier, mais aussi l'histoire de chaque guerre et chaque conflit qui est différent par les conditions dans lesquelles par les contraintes que le conflit impose à ceux qui essaient de le raconter. La Première Guerre mondiale est un conflit très particulier, puisque, comme on l'avait décrit tout à l'heure, il y a cet immense front qui court sur des centaines et des centaines de kilomètres et dont tous les accès sont parfaitement contrôlés par les belligérants, que ce soit du côté allié ou du côté allemand. Il y a effectivement des photographes qui sont autorisés à aller dans les tranchées. Il y a aussi des caméramans, les premières. Donc les caméras sont des appareils extrêmement encombrants, extrêmement lourds à transporter et surtout qui n'ont pas de moteur. Donc en fait, l'opérateur, le caméraman, doit actionner constamment une manivelle, y compris sous le feu, pour avoir une image régulière. Et donc, il y a un des premiers films qui est tourné en 1916 par deux caméramans britanniques et qui est consacré à l'offensive de la Somme, qui est une offensive franco-britannique qui échoue totalement au prix de pertes gigantesques. Et donc, ces caméramans arrivent à photographier des images des tranchées, des images des soldats, des images de l'assaut, même si elles sont prises de loin. Et le film est monté et diffusé d'abord en Angleterre, puis dans tous les pays alliés, dans le monde entier, qui à l'époque, il reste, je crois, pendant des dizaines d'années. C'est un des documentaires les plus vus au monde, qui s'appelle La bataille de la Somme, de Geoffrey Malins. Et c'est un documentaire qui, à l'époque, est fait absolument sensation. C'est la première fois qu'on voit filmer la guerre.
Et vous l'avez dit, Albert Londe a un problème quand même avec le fait de se soumettre à la censure. Finalement, on demande presque à certains journalistes de participer à la propagande et ça les discrédite un petit peu. Donc après s'être soumis à la censure par patriotisme, les journalistes vont finir par le faire pour des raisons idéologiques, écrivez-vous dans votre livre. Donc est-ce que à ce moment-là, le reportage de guerre devient une question d'engagement personnel, moral ? Est-ce que les journalistes y vont pour défendre leurs convictions ? fiction ?
C'est une question qui est très... Et en fait, je ne fais que citer les journalistes qui ont... La plupart ont écrit après la guerre pour expliquer ce qui s'était passé. C'est à l'époque qu'on invente l'expression « le bourrage de crâne ». Je pense que le journaliste, et particulièrement les correspondants de guerre, ne se sont jamais remis de la Première Guerre mondiale, qui jette un discrédit profond sur leur profession. Il y avait une expression qui était célèbre, « rien de ce qu'on raconte dans les journaux n'est vrai, rien de ce qui est vrai n'est raconté dans les journaux ». Mais c'est aussi dû à des raisons qui sont très particulières. D'abord, c'est une censure qui est imposée. Elle est imposée par tous les gouvernements, le gouvernement britannique, le gouvernement allemand et aussi le gouvernement français. C'est une décision politique. À l'époque, quand, en 1917, quand le groupe des correspondants de guerre français est créé, c'est Clémenceau qui est le Premier ministre. Lui est un ancien journaliste. Il sait très bien l'influence des journaux et il établit une censure qui est extrêmement stricte. Donc, les journalistes ont très peu d'accès au front. Il est quasiment impossible de passer à travers les lignes, impossible de se rendre en première ligne si on n'a pas les accréditations nécessaires. Et effectivement, donc, il y a des tensions permanentes entre les journalistes, et notamment Albert Londres, qui, comme on l'a raconté tout à l'heure, finit par avoir des mots avec un des officiers de la mission de presse française et est chassé de la, on lui retire son accréditation. Mais certains journalistes admettent aussi qu'ils font ça par patriotisme. Leur pays est envahi, le pays est occupé. Est-ce qu'ils ont le droit de d'écrire des articles qui peuvent être démoralisants, de raconter les conditions de vie dans les tranchées? Certains se posent la question. Certains le font d'ailleurs aux Dardanelles, qui est l'expédition franco-britannique contre la Turquie en 1915, qui est un échec catastrophique. Il y a un journaliste britannique qui s'appelle Ashley Mead et qui raconte, il envoie une lettre au Premier ministre britannique, qui sont publiées ensuite dans le Guardian, et qui raconte à la fois le niveau épouvantable des pertes, mais aussi l'incompétence totale du commandant britannique à l'époque qui est relevé de ses fonctions. Donc il y a quelques exceptions, mais la Première Guerre mondiale reste un tournant dans l'histoire des correspondants de guerre à cause de cette censure extrêmement rigide qui est imposée.
Et dans le photojournalisme, on voit quand même un nouveau cap qui est franchi en 1936 pendant la guerre d'Espagne, grâce à de nouveaux appareils photo comme le Leica, le Zeiss, qui sont petits, maniables, avec des pellicules de 35 mm. Il y a quelque chose qui change, notamment avec un grand photographe, c'est Capa.
Il y a une révolution, d'abord une révolution technique, comme vous venez de décrire. Il y a une rupture technologique fondamentale au début des années 1930. Il y a des petits appareils photo qui utilisent de la pellicule cinématographique de 35 mm qui sont inventés et commercialisés. Et tout à coup, on n'a plus besoin de se trimballer avec un trépied, avec un énorme appareil, avec un obturateur qu'il faut enlever à la main, actionner à la main. Tout à coup, il y a un petit appareil photo avec des vitesses d'obturation très rapides. Donc, les temps de pose se réduisent considérablement. On peut prendre des images à la volée, on peut prendre des images dynamiques, on peut changer les objectifs, et c'est une révolution technologique capitale. Et il y a une génération de photographes, il y a la guerre d'Espagne qui éclate en juillet 1936, et une génération de jeunes photographes, dont fait partie bien sûr Robert Capa, qui est d'ailleurs, on l'a parfois un peu oublié, mais qu'en fait, qui est d'abord le nom collectif qu'il s'invente avec son ami de l'époque qui s'appelle Garda Taro. Et donc, ils sont tous les deux, ils sont deux immigrés originaires d'Europe de l'Est, Capa est hongrois, Garda Taro est juive allemande, ils sont tous les deux réfugiés à Paris, et ils inventent ce personnage à eux deux, ils inventent le nom d'un photographe américain imaginaire qui s'appellerait Robert Capa. Voilà. Et donc, ils vont tous les deux en Espagne, ils envoient leur première photo sous les noms de Robert Capa. Garda Taro est tué en fait sur le front pendant la bataille de Brunete. Et donc Capa, qui se retrouve tout seul, garde...
À cause d'un char, oui.
Elle est tuée effectivement par un char au moment de la déroute des Républicains au siège de Brunete. Et donc Capa demeure avec le nom qu'ils ont créé tous les deux, et il devient en quelques semaines, en quelques mois, enfin ce jeune photographe quasiment inconnu envoie ses photos. Il n'est même pas au courant, puisqu'il n'y a pas Internet, il y a très peu de liaisons téléphoniques, il n'est pas au courant de la façon dont elles ont été reçues, et quand il revient à Paris quelques mois plus tard, il est devenu un des photographes les plus célèbres de l'époque.
Alors la photo va continuer à jouer un rôle très important dans la presse tout au long du XXe siècle. On pense notamment à la naissance du magazine Paris Match en 1949 avec son célèbre slogan « Le poids des mots, le choc des photos ». Donc ça continue à être une révolution permanente. L'image devient centrale dans la presse.
Oui, la rupture des années 30 avec l'invention de ces appareils photo, elle déclenche une révolution. C'est-à-dire, tout à coup, il y a des magazines. On peut aussi reproduire la photo, d'abord en noir et blanc et ensuite rapidement en couleur, dans des magazines, et c'est la grande révolution et l'apparition du magazine photo avec une génération entière de nouveaux photojournalistes qui culminent donc la Seconde Guerre mondiale est déjà une guerre photographique très photographiée. Elle est photographiée par des centaines et par des milliers de photographes. Tous les belligérants ont des photographes avec leurs armées qui avancent, qui prennent des photos, dont certaines sont devenues des photos historiques. Et ensuite, tous les conflits suivants sont énormément couverts, photographiés par des générations de photographes. Il y a un âge d'or du magazine photo qui s'achève d'ailleurs à la fin du XXe siècle, dans les années 2000. Enfin, il en reste maintenant quelques-uns, mais on est bien loin de... Paris Match existe encore, il y a encore en France quelques magazines, le Figaro Magazine ou des magazines comme VSD, mais on est bien loin de l'époque où il y avait des dizaines de magazines à travers le monde qui envoyaient des photographes et qui publiaient des photos qui étaient vues en plus par des millions et des millions de personnes.
Et pour finir sur une note contemporaine, c'est quoi le rôle du correspondant de guerre aujourd'hui ?
Le rôle du correspondant de guerre, alors est-ce qu'il a un rôle ? Avant tout, c'est un journaliste. En fait, le correspondant de guerre, c'est un métier qui n'existe pas. On ne fait pas d'école de correspondant de guerre, on n'a pas de carte de correspondant de guerre, personne n'est engagé comme être correspondant de guerre. C'est avant tout un journaliste, un reporter, qui peut être un reporter d'image, un caméraman, un photographe, un rédacteur, un journaliste de radio, qui couvre un conflit, qui se rend sur un champ de bataille pour décrire, raconter ce qui s'y passe. Et donc son rôle reste celui, avant tout celui d'un journaliste, d'un reporter, c'est-à-dire essayer de raconter ce qu'il a vu, raconter le mieux possible des événements qui sont particulièrement dans le cas d'un conflit, par définition très compliqué à couvrir, très difficile à comprendre, bourré de contraintes logistiques, de contraintes d'accès. On peut pas parler à tout le monde, on n'a qu'une vision extrêmement partielle des choses, et donc c'est ce qui fait ce métier un peu étrange, ou du moins cette branche du journalisme un peu curieuse qui s'appelle les correspondants de guerre.
Merci Adrien Jaulme pour cette réflexion autour de la figure du reporter de guerre. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Raconter la guerre, une histoire des correspondants de guerre, est paru aux éditions Équateur. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Merci à vous tous d'avoir écouté l'interview bonus du vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée. Et si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles. À bientôt.